Shalom. La plupart du temps, quand on pose la question aux gens pourquoi ils veulent le Mashiach, les réponses qu'on entend d'habitude, c'est que on souffre trop. On veut le Mashiach car il y a trop de souffrance. On veut le Mashiach parce que on a beaucoup d'ennemis autour de nous et le Mashiach va leur régler leur compte et on sera plus tranquille. Aussi parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles, shalom baïd, entre les enfants, etc. Donc le Mashiach va régler une bonne fois pour toutes tous ces problèmes. Et aussi, problèmes de maladie, etc., etc. En fin de compte, si on résume ça, en gros, le Mashiach, ça sera un mix entre Rambo, parce qu'il va s'occuper des ennemis, de Casimir, parce qu'on va tous sourire, on sera tous contents, d'assistante sociale, parce qu'il va aider les gens, en particulier dans leur famille, dans les couples, etc. Et aussi, ça sera bien entendu quelqu'un de religieux. Il aura des péroches et il aura une kippa, il va connaître la Torah. C'est le minimum qu'on demande pour le Mashiach. Nous savons que chaque personne est venue dans ce monde pour réaliser un rôle bien déterminé. Hachem lui a donné des qualités, lui a donné des défauts, et cette personnalité qu'Hachem lui a donnée, c'est ce qu'il lui faut pour réussir. Quelque chose l'a fait venir dans ce monde. Et bien, de même, dans chaque génération, on doit, chacun d'entre nous, identifier la fonction qu'Hachem a voulu qu'on réalise. Et sans doute, notre génération a peut-être la charge la plus difficile. Parce que nous savons que tous les signes précurseurs qui sont écrits dans la fin de la Maseret Sota, dans le Talmud, se sont réalisés. Bien entendu, je parle de que les prix vont augmenter. Il y aura une grande abondance dans le monde. La belle-fille va se rebeller contre sa belle-mère. Que le jeune ne va pas se lever devant le vieux, etc., etc., etc. Toutes ces prophéties se sont réalisées. Donc vous avez bien compris que notre charge, qui est peut-être la plus difficile, c'est que nous sommes la génération qui va précéder la venue du Mashiach. Le Rambam, dans les 13 articles de foi, Shlosha Esrei Karim, Bemouna, nous déclare. C'est une chanson, peut-être vous la connaissez, Avram Fried la chante. Anima min, anima min, Bemouna Shelema. Anima min, Bemouna Shelema, Beviata Mashiach. J'ai une confiance absolue, Shelema, entière, en la venue du Mashiach. Va alpha pishit ma mea, et bien que il va tarder, im kolze achakelo bechol yom eshiyavo, bien qu'il va tarder, j'ai une confiance, je sais, plutôt, j'ai une foi parfaite en sa venue, et malgré tout, j'attends son arrivée, j'attends l'arrivée du Mashiach. Donc on voit que d'après Maïmonide, c'est pas suffisant de croire que le Mashiach va venir, mais c'est d'être convaincu, l'attendre avec impatience et constamment son arrivée. Le Rambam va encore plus loin dans Ilchot Malachim. Là-bas, c'est tout le Perek, c'est la fin du Perek. Là-bas, au sujet des rois, les lois sur les rois. Et là-bas, il nous dit encore plus fort. Il nous dit celui qui n'attend pas la venue du Mashiach, comme ce qu'il dit, constamment avec impatience, il est considéré comme un kofer, un renégat. Quelqu'un qui renie non pas seulement cette prophétie, et kofer renie la totalité de la Torah, et ainsi que tous les prophètes. Il arrive à ce moment-là, je suis considéré comme un renégat, comme un kofer. Je ne comprends pas trop les paroles du Rambam. Et en plus, à Emet, la vérité c'est qu'on veut le Mashiach. Quand on sort dans la rue, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Combien d'ennemis autour de nous? Quand je me rappelle le slogan du Bétard, il disait « Il y a un seul État juif, 50 États arabes, qui sont les vrais colons ?» Eh mec, on est entouré d'ennemis. On ne veut pas le Mashiach pour qu'une bonne fois pour toutes, on soit tranquille. Avant de répondre à cette question, on va se poser une autre question. Suis-je vraiment digne de recevoir le Mashiach ? Qui suis-je ? Les sages de la Gemara, les Géonim, les Rishonim, tous les Acharoïm, même tous les Tzadikim, le Chafetz Chaim, tous ces Tzadikim-là, ils n'ont pas eu le mérite de recevoir le Mashiach. Pourquoi nous, on sert encore plus, méritant pour le recevoir? C'est vrai, non? Pourquoi nous? Si on prend l'exemple de la génération du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. C'était à l'époque, à Sfat, il vivait à Sfat, il faut imaginer. Là-bas dans sa communauté, c'était lui le Rav, Rabbi Yosef Karo. On dit que à Shavuot, on ramène souvent cette histoire-là, c'est qu'il y a une voix qui sortait de sa bouche, la Shekhina, la Mishnah, qui parlait de sa bouche et qui dévoilait des secrets. On n'imagine même pas le niveau. Lui était le Rav. Dans sa communauté, il y avait aussi Rabbi Elazar Askari, auteur du Sefer HaRidim, le livre des tremblements, HaRidim. C'était lui le Shamash. Imaginez-vous le Shamash, à un niveau extraordinaire. Là-bas, le Chazan, c'était Rabbi Shlomo Alkabetz. Vous entendez parler de Rabbi Shlomo Alkabetz, pour ceux qui sont partis à Tzfat? C'est celui qui a écrit les Chadodi. Imaginez-vous ce poème qu'on chante tous les jours. Imaginez-vous quelle chanson, quelle proximité quand il priait et toute la Keïla suivait toute la communauté. Le Hashlich HaKadosh était le Magid. C'est lui qui donnait du Chizouk, qui renforçait toute l'assemblée. Et au-dessus de tout, on avait qui? Le Harizal. Comment une génération comme ça n'ont pas réussi à mériter le Mashiach? Chaque nuit, se réveiller pour pleurer la destruction du Beth Amikdash. Il prie à Hachem, donne-nous le Mashiach, donne-nous la reconstruction du Beth Amikdash. Le Tisha B'Av, vous étiez parti voir prier avec, le jour de Tisha B'Av avec des tzadikim, avec des gdolim. Dans l'état où il se met, si déjà des tzadikim de notre génération qui sont des tzadikim, imaginons les générations auparavantes. Comment eux, qui n'ont pas mérité le Mashiach, nous, va mériter le Mashiach? On est tellement pauvres spirituellement. Et pourquoi on mériterait le Mashiach? Le problème, c'est que si on ne donne pas une raison valable, notre émouna, nos prières quotidiennes, elles sont considérées comme superficielles. Elles n'ont presque aucun intérêt. Je prie pour quelque chose que je sais que je ne vais pas savoir arriver. Le Rav Israël Tauber, il dit, c'est comme si vous, maintenant, vous attendez votre avion à une station de bus. Il ne viendra jamais, votre avion. C'est la même manière. Si nous, maintenant, on attend l'avenue du Mashiach, comme on se dit qu'on est tellement petit, il ne viendra pas pour nous, quel intérêt de prier, etc., et de demander le Mashiach? En fait, non. On va essayer de donner une raison valable pourquoi nous, on peut attendre le Mashiach. C'est vrai qu'on est une génération très matérialiste, loin de toute spiritualité. Et qu'on sait que Hachem est voilé. On est à la fin des temps où l'Hachem, Estir, Star, Panav, Hachem va se voiler. Mais c'est pour cette raison que je vais attendre Akadosh Baruch Hu. Je vais attendre le Mashiach. Moi, juif, Ben Israël, je veux essayer de ressentir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Je vais essayer maintenant de vivre son dévoilement. Et celui qui ne croit pas à ça, en fait, qu'on ne croit pas à la sainteté du peuple d'Israël, il ne croit pas que Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous, que nous sommes la Kala d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui se dit, moi, je ne suis pas capable de ressentir et de vivre l'avenue du Mashiach. Qui suis-je pour recevoir le Mashiach? Il se sous-estime. On ne se rend pas compte qui on est. Quand on lit l'histoire, quand on lit la Torah, on lit les miracles que les Béné Israël ils ont vécu. Nos ancêtres. Que nous aussi, on peut vivre ces moments-là. Quand on voit toutes les souffrances que l'armée Israël a vécues jusqu'à aujourd'hui, et qu'ils ont réussi à résister. Ils ont réussi à dire, nous, on est capables de résister pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'eux, ils se surestimaient. Si eux, ils peuvent se surestimer, nous aussi, on peut se surestimer. Et aussi, une personne qui se dit, mais moi, je veux le Mashiach, c'est bien, c'est vrai, mais mes ambitions spirituelles ne sont pas à ce niveau-là. Moi, juste, je vais vivre tranquillement. Mais trop boulot dodo, Mashiach, il vient, je reprends mon processus tranquille, je n'ai pas trop de souffrance autour de moi. Le Rambam, il nous dit, c'est un kofer, un renégat. Être un juif, c'est quelqu'un qui doit se surestimer. Quelqu'un qui doit reconnaître. Le Yehudi, c'est l'Eodot. Reconnaître notre véritable statut. Maintenant, quand je prie pour la venue du Mashiach, c'est une manière de demander à Kajobokhu. Je veux ressembler à Moshe. Je veux ressembler à Avram. Au Avi, quelqu'un qui tu le dis, qui était, c'était ton amoureux. Mais non, Kajobokhu, j'arrive pas à m'approcher de toi. Regarde autour de moi. La société, regarde toute cette matérialité, regarde toute cette pourriture qu'il y a autour de moi dans ce monde-là. J'arrive pas à m'approcher de toi. Chez mon Yetzara, il est très fort. Ce Yetzara, il est très très puissant. Hachem, j'arrive pas. J'ai pas les mêmes forces que mes ancêtres. Juste pour ça, Hachem, je te demande de m'amener le Mashiach. Juste pour ça, je te dis, écoute, je veux m'approcher de toi. Je veux te dévoiler mon amour que j'ai pour toi. Amène-moi ce Mashiach. Et c'est ça, attendre la venue du Mashiach. C'est ça qui nous dit le Rambam. À chaque fois qu'on se réveille le matin, Hachem, je prie, c'est vrai. Hachem, je mange pour te servir. Je vais étudier la Torah. Mais c'est difficile, rien que tout ce Yetzer qui est autour de moi. C'est pour ça que j'attends le Mashiach, pour que je sois proche de toi. Pour que j'arrive enfin à vivre avec toi. C'est vrai que, comme on l'a expliqué, beaucoup de gens attendent sa venue, je précise bien seulement, pour en terminer une bonne fois pour toutes avec les souffrances que nous subissons. Et hélas, combien de souffrances? Les croisades, les inquisitions, la dernière, la Shoah. Combien de souffrances un Israël y souffre? Combien? C'est vadaï qu'on doit dire maspik, stop. Stop. Mais avant de dire maspik, stop, je raconte une petite histoire. Un jour, il y avait un tzadik qui se promenait de ville en ville comme ça pour essayer de donner du chizouk, renforcer les juifs qui étaient dans les villages en Russie. Et un jour, il s'arrêtait dans une auberge, dans une ferme, il s'assit là-bas, etc. Il était minuit, 1h du matin. Il s'est mis dans sa chambre, il commençait à pleurer pour la destruction Tikkun Chatzot, pleurer pour la destruction du Beth Amikdash. Et le fermier aubergiste entend ce tzadik en train de pleurer. Il tape à la porte, il dit « Excusez-moi, ça va, tout va bien, vous êtes pas bien, vous êtes mal à l'aise, vous avez mal dormi, il y a quelque chose qui ne va pas ?» Il dit « Non, pas du tout, je suis en train de faire mon Tikkun Chatzot. » « Tikkun Chatzot, mais qu'est-ce que c'est ?» Il dit « Écoute, voilà, je suis en train de prier Hachem, parce que on a perdu notre Beth Amikdash, et je veux que le Beth Amikdash revienne, et que le Mashiach vienne, et pour qu'on soit heureux enfin, et qu'on vive avec le Mashiach et avec Hachem. » Ah ouais, mais c'est-à-dire que le Mashiach va bientôt venir. Il dit bien sûr, il va bientôt venir, Mashiach. Je l'attends, il va venir. Toi aussi, tu l'attends. C'est super. Je vais en parler à ma femme. Il descend, il va en parler à sa femme. Il remonte après quelques instants. Il dit écoute, mais ma femme demande, mais si on va venir, on va retourner en Israël pour recevoir le Mashiach. Mais comment on va faire avec notre ferme? Demande ma femme. Il dit lui, t'inquiète pas, vous aurez une ferme là-bas. Bon d'accord, il redescend. Il dit t'inquiète pas, on aura la ferme. Il remonte après quelques instants. Il lui dit « Oui, mais d'accord, la ferme, c'est bien beau, mais les animaux qui vont s'en occuper, ils vont mourir tout seuls ici. » Alors il dit « Non, t'inquiète pas, t'auras d'autres animaux ici, de toute façon, t'en auras plus besoin. » Bon, je dis à ma femme, c'est vrai, j'aurai d'autres animaux là-bas, bon, c'est pas la peine, je redescends. Il redescend et il remonte. Il dit « Écoute, mais j'ai trouvé une meilleure solution. C'est vrai que là-bas, j'aurai ma ferme et mes animaux, et que si on souffre, on a des ennemis autour de nous, on a les Tatars, là-bas, il y a dans l'histoire qu'il a des Tatars. Les Tatars, c'était des ennemis, ils faisaient du mal aux Juifs. Dites au Mashiach qu'ils prennent des Tatars, qu'ils les amènent en Israël et nous qu'on soit tranquilles ici. Tu n'auras plus besoin de pleurer parce que tu seras heureux et nous on sera contents avec notre ferme et nos animaux. » Cette histoire nous fait un peu rire. Il est un peu naïf, il ne comprend pas le Inyan. Mais en fin de compte, on n'est pas un peu comme ça. Quand on attend notre Mashiach, est-ce que réellement on attend, comme on l'a expliqué, la venue du Mashiach pour avoir un dévoiement d'Hachem ou seulement parce que chacun a ses problèmes de Shalom Bayit? Lui, il a problème de Parnassa. Lui, il a problème de santé. Lui, il a problème avec ses ennemis parce qu'il est très politique. En fin de compte, on est un peu comme ça. Chaque juif doit viser bien plus haut, se surestimer. C'est-à-dire que nous, on est capable d'être Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu. Si eux l'ont fait dans leur génération, nous aussi, on peut le faire. Et comment on peut le faire? En demandant le Mashiach. En demandant d'être proche d'Hachem. Mais bien entendu, vous savez que pour mériter le Mashiach, il y aura l'examen final. Oh Hachem. On est cette génération qui va vivre l'examen final. Et nous devons être prêts pour cette épreuve. Comment être prêt pour cette épreuve? Qu'est-ce que c'est cette épreuve-là? Le Rav Shimon Sofer, le Ktava Sofer, c'est le petit-fils du Khatam Sofer, déclarera un soir dans son discours sur le soir de Shabbat à Gadol, qui dévoile au nom de son grand-père, le Khatam Sofer, que les deux épreuves qu'ont eues les Bnei Israël juste avant la sortie d'Égypte vont encore se présenter à nous. Et pourquoi? Il dit c'est tout simple. On sait qu'on a un verset dans Micha. Le prophète Micha qui nous dit comme ça. Qui met cetecha meres misraim et renou niflaot. Comme au jour je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, je te ferai voir des miracles. Ici, on parle, comme au jour, donc on parle de la sortie d'Égypte, Hachem, à la fin des temps, nous fera voir les mêmes miracles. Il va nous faire vivre cette sortie d'Égypte, cette dernière sortie de la galoute. Mais il dit, de la même manière qu'on va vivre ces miracles, les épreuves qu'ont vécues les Béné Israël à cette époque-là, on va les vivre. Alors il nous dit que la première épreuve que les Béné Israël vont vivre, c'est l'épreuve des ténèbres. Alors il faut imaginer la suite, vous avez lu un peu la Haggadah. On sait que l'épreuve des ténèbres, c'était quoi? C'était pendant 3 jours, il y avait une obscurité tellement intense que les Égyptiens ne pouvaient même plus bouger de leur place. Celui qui était assis sur sa chaise, il restait assis sur sa chaise. Celui qui était debout, il restait debout. Intense, intense, intense. Par contre, chez les Béné Israël, c'était le jour, lumière intense, comme si de rien n'était. Là-bas, une des raisons pourquoi il y a eu la plaie des ténèbres, c'est que les Béné Israël devaient enterrer leurs morts. Et pour pas que les Égyptiens disent « Ah, vous aussi, vous avez vécu les plaies. » Alors Hachem, il a fait un miracle que les Égyptiens ne voyaient pas ce qui se passait et que, tranquillement, les Béné Israël pouvaient enterrer leurs morts. Après ça, Hachem leur donne une mitzvah. Moshe vient voir les Béné Israël, il dit « Sachez que vous allez rentrer dans chaque maison des Égyptiens et vous allez voir tout ce qui se trouve dans leur maison, toute leur richesse, où ils ont caché leur richesse. » Extraordinaire. Donc ils rentraient tranquillement. Les Égyptiens, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils entendaient du bruit. Ils ne comprenaient pas. Ils ouvraient les placards, les chaussures, les pots. Ils cherchaient partout, partout, partout où ils ont pu cacher. Parce qu'ils savaient que les Égyptiens, les Béné Israël allaient sortir. Ils allaient ramasser leur dû. Et ils commencent à fouiller, fouiller, fouiller tous les endroits. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y avait un gros Yetzerara. Ça fait 210 ans d'esclavage. 86 ans de dur labeur. J'ai pas reçu un seul salaire. J'ai perdu ma femme, mes enfants, j'ai reçu des coups. Je suis tout seul. Je souffre. Ça me revient au moins, c'est le minimum de recevoir tout cet argent-là. Prendre une petite bague par là, un petit diamant, une petite pièce d'or. C'est le minimum, moi, qui ai vécu l'esclavage. Eh ben, là-bas, les Mépharchis nous disent que 4/5 du peuple d'Israël ont été détruits. Pour une des raisons, c'est qu'ils n'auraient pas été capables de résister à cette épreuve-là. L'épreuve de piquer quelque chose. Attendez, par qui? Si je vous pose la question, grâce à qui l'Égypte est devenue riche? Grâce à Joseph. Joseph, c'est lui qui a enrichi l'âme d'Israël. Donc cet argent-là, en fait, ça appartient aux Juifs. Joseph, c'était lui toute cette richesse-là. Donc en fait, ça me revient. Donc on voit toutes les raisons pour commencer à prendre ça. Se venger. Ça s'appelle une vengeance. Et on voit que 4/5 n'a pas pu résister. Bon, on dit que cette épreuve-là, on va la vivre aussi. A priori, on l'a déjà vécu, là-bas, le Rav Israël Tauber, il ramène que après la Shoah, son père a vécu la Shoah, et ils sont retournés en Tchétchénie. Et là-bas, beaucoup de Juifs ont voulu se venger. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que la police allait les protéger, parce que c'est une manière de se dire, bon, on se rachète par rapport à tout le mal qu'on vous a fait. Récupérer nos objets, récupérer tout le mal qu'on a fait. Et bon, certains n'ont pas résisté, d'autres ont résisté. Cette histoire de vengeance. Moi, je pourrais même dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on a eu autour de nous beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et on voit qu'on n'essaye pas de se venger. On n'essaye pas de se venger. On ramène une histoire comme ça, c'est un jour, Rav Meir Lo, qui était grand rabbin d'Israël. Avant d'être grand rabbin d'Israël, il était grand rabbin de Tel Aviv. Et dedans, il raconte une histoire, il dit qu'il avait l'occasion, la chance de rencontrer le rabbi de Lubavitch. Et il était parti voir pour une question de mikvé qu'il voulait mettre en place à Tel Aviv. Et à un moment, Rabbi de Lubavitch le coupe et dit « J'ai une question à te poser. Je ne comprends pas. Dans tous les pays où il y avait des juifs, il y avait des révolutions. Aux États-Unis, en Russie, qui était la révolte des communistes? C'est qui a créé ça? D'abord, le premier, c'était... Qui c'est, vous savez ou pas? Non? Lénine qui était juif. Mais qui était maintenant le penseur? Marx, qui était aussi juif. On voit qu'en France, Léon Blum, la révolution. Dans tous les pays, il y avait des juifs, des révoltes. On veut des changements. On veut des changements. Et le rabbi pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi en Israël, qui est un pays que juif, là-bas, il n'y a pas de changement? Ça fait 70 ans que la politique est la même. Il n'y a pas de changement de révolution, on veut changer complètement les idéaux. Pourquoi? Alors Améilo, il ne s'attendait pas, écoute, moi je suis grand rabbin, je ne suis pas politicien. Mais peut-être j'ai une réponse. Pendant la guerre des 6 jours, on m'appelle à 7 heures du soir. Voilà, vous êtes le rabbin le plus proche. Il y a ici un soldat qui veut se marier avec sa fiancée. Mais le problème, on n'a pas trouvé de rabbin. Le rabbin qui devait venir à cause du couvre-feu, il ne peut pas venir. Vous êtes le plus proche rabbin. À pied, vous mettrez peut-être une heure. Est-ce que ça vous dirait de venir pour essayer de faire une mitzvah? Il dit, écoutez, passez-moi le khatan et la kala. Ils ont passé le khatan et kala. Est-ce que vous avez tous les papiers qu'il faut? Il dit, ouais, c'est bon, on a tous les papiers. Il dit, j'arrive en route. Et il arrive en route là-bas et il est marié. Il n'y avait pas grand monde, vous imaginez. Et lui, il voulait se marier parce que le lendemain, il partait sur le front. Et là-bas, hein, il avait l'habitude d'aller dans cette salle et il rencontre une des serveuses. La serveuse arrive vers lui, elle lève son bras, elle lui montre son tatouage de la Shoah. Elle dit, si mon fils ne revient pas de la guerre, je me tue, je me suicide. Alors le rabbin, il dit, écoute, avec tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu, c'est comme ça, de cette manière, vous parlez, de cette manière, croyez à la vie. Elle dit, non, je peux plus, trop, c'est trop pour moi. Moi maintenant, je suis sorti de la Shoah, vous avez vu, on m'a fait toutes les pires atrocités, on a profité de moi. On m'a fait tout le mal qui existait dans le monde, tout le diable, tous les méfaits du diable, je les ai vécus. Après, il y a eu la délivrance, Baruch HaShem. Je suis monté dans le bateau pour aller en Israël et je rencontre mon mari. Je me marie avec cette personne-là, avec mon mari. Et mon mari n'a même pas encore ses habits de soldat, son numéro de matricule qu'on l'envoie directement au front parce que c'était la guerre d'indépendance. Et il meurt au front. La seule chose qui me reste de ma vie, c'est mon fils. J'ai plus de mari. J'ai plus de famille, qui ont été tout détruits, il ne me reste plus que mon fils. S'il n'y a plus de fils, c'est terminé pour moi. Le rabbi essaie de lui parler et il regardait, quand il racontait son histoire, il voyait le rabbi Lubavitch avec des larmes. Et il lui dit, vous savez pourquoi maintenant les Bnei Israël, les Juifs, ne veulent pas faire de révolution? Ils ne veulent pas se venger, ils veulent rester tranquilles dans son pays. On a assez souffert, maspik. Donc nous maintenant, cette nature de se venger, peut-être cette épreuve qu'on va avoir, Baruch HaShem, je pense qu'on est capable de la résister. Maintenant, il y a la deuxième épreuve que le Rav, le Ktav HaSofer, nous ramène au nom de son grand-père. La seconde épreuve, c'est, elle s'est passée la dernière nuit de la sortie d'Égypte. Vous savez quelle plaie est arrivée? C'est la plaie Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Après, la plaie des premiers-nés, c'était quoi? Hachem va voir Moshe et lui dit, Moshe Rabbeinu, sache que ce soir, il y aura la dernière plaie, je demande à tous les Bnei Israël d'aller dans leur maison, de s'asseoir en famille, mettre le sang, etc., et de rester entre eux, de rester qu'entre eux et avec moi. De maintenant, de vivre tout ce qu'on a vécu, réfléchir sur ça et se dire que maintenant, c'est la délivrance. Vous avez compris que on part du soir du Seder. Nous, ce qu'on essaie de faire, le soir du Seder, c'est revivre ce moment-là. Il dit, Hachem, je veux être en Yichoud avec le Am Israël. Le Yichoud, on parle, c'est vivre dans être ensemble, en intimité, merci. Vivre en intimité avec le Am Israël. Qu'on reste qu'entre nous. Et qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, dehors, bam, l'explosion. Des cris, des souffrances. Dans toute l'Égypte, c'est le malheur, la tristesse la plus profonde. Quelqu'un qui a vécu 210 ans de malheur se dit, c'est le moment de se venger, de sortir à l'extérieur, voir qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Moi, je veux aller voir, leur dire, hey, t'as vu ce qui se passe? Je me venge. Profiter un peu, genre, c'est une manière de se soulager. Et ça, c'était la dernière épreuve. On dit que cette épreuve-là, 4/5 de la population du Am Israël n'avait pas pu résister. Et c'est pour ça que seulement 1/5. Donc ces deux plaies, de ces deux-là, ces deux épreuves-là, 1/5. En fin de compte, c'est quoi le Inyan là? C'est que ces deux épreuves-là représentent, est-ce que je suis prêt à suivre Hachem? La richesse, prendre quelque chose, j'en veux pas. Savoir que maintenant, mes ennemis souffrent, je m'en fiche. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est sortir, aller avec Hachem. Et on a vu que ceux qui sont sortis, c'était prêts à suivre Hachem dans le désert. Suivre Hachem, pourquoi? Juste pour être moins proche de lui. Je sais qu'Hachem vient me donner la manne, tranquillement, plus de problèmes de Parnassa. Tous les problèmes de la nature et la malédiction qu'on a reçus d'Adam Arishon, ça ne m'intéresse plus parce que je suis proche d'Hachem. Ça ne me concerne même plus. Être prêt à suivre Hachem, recevoir la Torah, être en Yichoud avec Hachem. Le Rav Israël Tauber me dit que cette deuxième épreuve-là, l'épreuve de Yichoud avec Hachem, d'être en intimité avec Hachem, on est en train de la vivre, mes chers amis. On est en train de la vivre. On voit autour de nous, on a la télévision, Baruch Hashem, qui nous ouvre sur l'extérieur. On a les journaux qui nous donnent une idée de ce qui se passe à l'extérieur. On a les ordinateurs, on a les téléphones, et bien entendu, on a Internet. En fin de compte, on est complètement, même maintenant, dans notre yichoud, dans notre maison, dans notre Beit Hamidrash, dans notre synagogue, notre lieu d'étude, on peut être complètement ouvert à l'extérieur. Maintenant, est-ce que je vais être capable de résister à ne pas prendre mon téléphone pour voir les infos quand je suis en train de faire ma tefillah, quand je suis en train d'étudier? Le Shabbat, de parler de ce qui se passe à l'extérieur, la politique étrangère, etc. Tous ces inanimes-là, toutes ces épreuves-là. Est-ce que je serai capable de résister? Et ça sera notre dernière épreuve. Savoir résister, ne pas perdre ce yichoud. Quand je suis en train de réciter ma Gemara, quand je suis en train de parler avec ma Chavruta de Torah, est-ce que je vais dire, attends, t'as vu le match hier? Ou je lui ai dit, mais regarde, Rava, ce qu'il dit. Au nom d'Hachem, on dit que le Khatam Sofer, quand il étudie sa Torah, comment il faisait? Il disait, Rava, il dit... au nom d'Hachem, Rava, il disait, telle manière, telle manière. Rav Yosef disait de telle manière, au nom d'Hachem, etc. Il est tout le temps relié avec Hachem. C'est ce qu'on nous demande à chaque Yehudi. Pas perdre ce Yichoud, pas perdre cette intimité dans le Beit HaKnesset quand je prie. Je dois jouer un jour un journal. Quand je suis en famille le Shabbat, pas perdre cette intimité. Maintenant, nos maîtres nous expliquent qu'à la fin des temps, le Ham Israël sera plongé dans un matérialisme le plus profond. Et où on le voit ça? On le voit dans Zecharia. Là-bas, c'est la Gemara Sanhedrin qui nous dit, qui nous ramène un pasouk dans Zecharia, qui nous dit comme ça, « Ani verochev el chamor ». Le Mashiach viendra comme un pauvre chevauchant un âne. Bientôt, vous avez compris que un âne, s'il aurait dit un cheval, à la rigueur, j'aurais dit une Ferrari. Mais si on parle d'un âne, c'est quoi un âne? En fin de compte, c'est que chamor, ça vient de l'union de chomer, matérialité. Le Mashiach viendra chevauchant la matérialité, dépassant la matérialité, supprimant la matérialité. Et là-bas, encore plus loin, les Chachamim donc, discutent de ça et ils disent, dans la Gemara Sanhedrin, Dav Tzadik Chet, Amud Bet, page 98, Amar Oula, Oula nous dit, Yati Velo Ichmine, qu'il vienne, mais que je ne le vois pas, le Mashiach. Rabba, il dit, Yati Velo Ichmine, qu'il vienne, moi si, que je ne le vois pas. Daner, qui vienne le Mashiach, je veux qu'il vienne le Mashiach, mais cette période-là, cette génération, je ne vais pas la vivre, je ne vais pas vivre dans cette génération. Rav Yosef, il dit, Yeti, Vesre, Yeti, Betula, De Kupita, De Chamre. Que le Mashiach vienne et que je sois à l'ombre des excréments de son âne. À l'ombre des excréments de son âne, mes chers amis. Ici, vous avez compris que les excréments, ça représente la matérialité la plus profonde, la saleté la plus profonde. Aujourd'hui, Baruch Hashem, vous êtes grand, vous êtes objectif, vous savez ce qui se passe à l'extérieur. On est vraiment dans la bestialité la plus profonde, dans les vices. Chacun veut profiter de ce monde. On ne cherche plus l'intérêt de son prochain, on ne cherche que son intérêt. Profiter, profiter, profiter un max. Même toutes les inventions, avant il y avait un peu de marche à voie d'intelligence, aujourd'hui toutes les inventions c'est... Je vais être tranquille. Qu'est-ce qu'on peut créer pour rendre les gens plus tranquilles, pour profiter un maximum? Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. En fin de compte, ça, c'est la réponse. Rabbi Yosef, il dit, moi, je veux vivre cette période-là. C'est vrai que ça va être difficile. C'est vrai que la matérialité va être forte. On va avoir du mal à résister. Mais je vais être à l'ombre de ces excréments. Parce que chaque épreuve que je vais avoir de résister un petit peu, me dire, je m'éloigner. C'est vrai que je suis encore à l'ombre. C'est vrai que je suis pris par la matérialité. Mais ça va être, pour moi, ça va être une grande réussite. Je vais réussir, je vais m'approcher d'Hachem comme ça. Et je vais montrer à Hachem que je suis capable. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons l'offrir. Parce qu'il n'y a que nous qui vivons dans cette génération-là. Maintenant, pour terminer, pour conclure et pour comprendre le Rayon, pour comprendre pourquoi nous mérite plus le Mashiach que les autres générations. Le Rav Israël Tauber, il raconte une histoire. Il dit que lui, ça lui a, il a vécu ça d'être à l'ombre des excréments de l'âne. Lui, Rav Israël Tauber, pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui fait des séminaires dans le monde entier, surtout pour les anglophones. Et un jour, comme à l'habitude, il prenait de l'avion pour aller à une conférence. Et hélas, un de ses avions devait faire un arrêt et il devait passer la nuit dans un des hôtels qui est offert par la compagnie. Donc il arrive dans sa chambre d'hôtel, il était très tard le soir, il était épuisé. Mais vous savez, comme un bon juif, il dit « moi je prends sur moi mon Daf Yomi ». Il avait pris sur lui de prendre son Daf Yomi, c'est son étude hebdomadaire, journalière, excusez-moi, son étude journalière d'une page de Gemara. Il commence à mettre devant sa page de Gemara et épuisé, il commence à piquer du nez, très difficile. Et il dit « mais attends, je ne comprends pas, mes ancêtres, mes aïeuls, mon père, mon grand-père, ils travaillaient une partie de leur journée le soir très tard, ils étudiaient la Torah. Et moi, Baruch HaShem, je ne travaille pas comme eux, je ne suis pas capable de faire mon Daf Yomi, une Daf Yomi, alors que les Chidushim de Torah. Rav Israël, ils travaillaient la journée, ils étudiaient le soir, ils étudiaient. Comment moi, je n'arrive pas à faire une page de Gemara, c'est ce qu'on demande. » Et c'était très dur, très dur, très dur. Bon, il commence à vraiment à ne plus résister. Et il dit, bon, je vais me détendre un peu. Et qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Un bel écran télévisé. Il était à l'ombre des excréments de l'âne. Chas v'shalom, on ne va pas dire qu'il va y avoir des saletés. Il voulait peut-être se détendre, voir les informations, voir un documentaire. Et il commence à dire, bon, de toute façon, je suis fatigué, je ne peux pas étudier, je suis incapable. Et je suis tout seul. Pas problème de Chiyoul Hashem, je suis tout seul, parce que je sais ce que je vais voir, je résiste. Et là, il s'arrête un moment, il dit, mais Ribono Shalola, maître du monde, c'est vrai que je ne suis pas capable d'étudier la Torah comme mes ancêtres. Eux, c'était des tzadikim, des gdolim, des chassidim. Ils pouvaient résister, ils pouvaient étudier cette Torah. Mais moi, ce que je vais te donner, eux, ils ne peuvent pas te le donner. Ce bouton-là de télécommande, eux, ils ne peuvent pas te le donner. Cette ambiance, cette société, cet environnement matérialiste, cette perversité qui existe dans ce monde-là, eux, ils ne peuvent pas te le donner. Moi, je le donne. Ce bouton, je le donne. Pour moi, ça serait comme un corban. Et ça, mes chers amis, chacun d'entre nous, on peut donner ça à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans téléphone. On ne peut pas vivre sans Internet. Mais se dire que Hachem, regarde, pendant ce Yichud, pendant cette intimité que j'ai avec Hachem, donne-le, je te donne. Je veux rester avec toi. Je ne veux pas prendre mon téléphone. Je ne veux pas regarder ce qui se passe dans le monde entier. Ce n'est pas le moment. Je suis avec toi, Hachem. Et peut-être c'est une yenne là. Et c'est Vadaï que ça, c'est la preuve de la fin des temps, l'épreuve. On le vit tous. Et c'est vrai que c'est difficile. Qu'on Bezrat Hachem, qu'on soit Zoché, Bezrat Hachem, de recevoir le Mashiach et réussir nos épreuves, Bezrat Hachem. Que Dieu vous bénisse. Amen.